L'utilisation récente dans une chronique du mot margoulin.
Les margoulins sont attirés par ces gros budgets.
Margoulin qui n'avait plus été employé à l'antenne depuis 72 dans un débat entre Jox et Mendès France. Je me disais donc que c'est fou, quand Domi a commencé dans la vie active, la retraite était à 60... Ah non, il n'y avait pas de retraite, il fallait qu'elle la protection du suzerain local. Bref, n'essayons pas d'orienter le débat sur les retraites qui devrait donc connaître enfin une issue aujourd'hui. En tout cas, François Bayrou fait tout pour. Hier soir, dans un ultime élan pas du tout désespéré, il a lancé une nouvelle idée. Allez les vieux, vous restez un peu plus longtemps au boulot et en contrepartie, je vous file une prime, ok? Comment Maurice, t'as mal au dos? Non mais je te file un petit billet, tu continues, ça va aller, c'est juste une sciatique. Ah c'est pas une sciatique, c'est un cancer? Bon, je te file deux billets alors. Gourmand le Maurice, jusqu'où ira la grande braderie des retraites? Ce message s'adresse aux plus de 64 ans. Vous, les forces vives de la nation, dialysées ou pas, maintenez la cadence. Pour chaque année de travail supplémentaire, le gouvernement vous offre votre poids en jurançon. Jurançon sec, jurançon doux, l'important c'est d'aller au bout. Oh Maurice, arrête d'en faire des caisses avec ta sciatique.
Et merci Mathieu Noël. France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il appelle les Iraniens à évacuer Téhéran et rentre à Washington. Que va faire Donald Trump après avoir quitté précipitamment le G7 cette nuit? Nous sommes avec notre correspondant aux États-Unis. Au cinquième jour du conflit entre Israël et l'Iran, échange de missiles de part et d'autre. Tel Aviv et Jérusalem visés ce matin, on se penchera sur l'arsenal militaire de Téhéran.
Et Léa Salamé, bonjour.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous.
Le grand entretien dans 20 minutes.
Quelle doit être la position de la France face à la guerre au Moyen-Orient? Doit-elle soutenir les frappes israéliennes? Doit-elle rappeler le droit international? Comment faire entendre une voix dans un monde où règne la loi du plus fort? Parole à l'ancien président de la République, c'est François Hollande qui sera notre invité à 8h20.
Et il répond à vos questions au 01 45 24 7000.
À la une ce matin, il y a aussi les retraites et la fin du conclave des partenaires sociaux. Est-ce vraiment la dernière séance? Arriveront-ils à se mettre d'accord sur les questions d'âge, de pénibilité, de finances publiques? L'avenir des salariés en dépend, comme celui peut-être de François Bayrou. Les victimes des essais nucléaires français en Polynésie seront-elles plus facilement indemnisées? Recommandation d'une commission d'enquête parlementaire aujourd'hui et reportage à suivre sur place. On parlera également de la bonne santé du commerce équitable porté par les produits français et du dernier tour de piste du commissaire Montalbano. Son auteur italien et Andrea Camilleri voulait qu'il sorte après sa mort.
France Inter.
La suite de la guerre entre Israël et l'Iran est-elle en train de se jouer à Washington, où Donald Trump est donc en train de rentrer alors qu'il aurait dû passer la journée au G7 dans l'Ouest canadien? Sommet écourté pour le président américain. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Trump est donc de retour, enfin sur le chemin de la Maison-Blanche. Pourquoi faire?
C'est ça. Eh bien, bien malin celui qui croit savoir. Hein. Emmanuel Macron vient d'en faire les frais. Trump est à bord d'Air Force One et message pour contredire ce qu'affirmait son homologue français cette nuit. Il écrit sur son réseau Truth: Emmanuel Macron, pour se faire de la pub, a déclaré à tort que j'avais quitté le G7 pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. C'est faux, dit Trump. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je rentre actuellement à Washington, ajoute Trump. Mais ça n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus gros que ça. Avant une dernière couche au président de la République, volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. Fermez le banc, on ne sait toujours pas pourquoi Trump quitte le G7 avant la fin. En tout cas, voilà l'Élysée fermement renvoyée dans les cordes.
Mais Sébastien, dans cette incertitude, il y a tout de même des éléments factuels à relever au Moyen-Orient.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'Israël fait pression pour une intervention militaire américaine contre l'Iran, que les États-Unis sont les seuls à avoir la bombe capable de percer les installations d'enrichissement nucléaire souterraine iranienne de Fordo, que l'Amérique renforce sa présence dans la région. Hein. Plus d'une vingtaine d'avions ravitailleurs sont arrivés depuis 48 heures sur des bases aériennes en Europe, Espagne, Grèce, Allemagne, Italie, Écosse. Plus près du Moyen-Orient, donc, pour défendre leurs intérêts si besoin. Et puis le porte-avions américain Nimitz fait route vers l'ouest pour rejoindre les autres navires de guerre américains qui sont déjà sur zone.
Sébastien Paour, correspondant de France Inter aux États-Unis, pour Benjamin Netanyahou qui a lancé les hostilités, assassiné le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, mettrait fin au conflit. On disait hier que Donald Trump l'en avait dissuadé. Emmanuel Macron va plus loin. Vouloir changer le régime en Iran par la force serait une erreur stratégique. stratégique. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État au sommet du G7 avant la publication d'une déclaration commune cette nuit, affirmant le droit d'Israël à se défendre et appelant à protéger les civils. À Téhéran, cette nuit, de nouvelles explosions ont retenti après la frappe spectaculaire d'hier contre la télévision d'État en plein direct. La chaîne annonce ce matin un bilan de 3 morts. Les habitants qui peuvent le faire continuent à quitter la capitale, comme ceux d'autres villes dans le viseur d'Israël. Cette jeune iranienne, par exemple, l'agent de Sandrine est au Handeg.
L'angoisse de ces 5 derniers jours de bombardements israéliens, Fateh la résume par cette image en français.
Ce stress est devenu une seconde peau.
C'est une frappe israélienne dans son quartier qui l'a convaincu de quitter sa maison, située à Kermanshah, à plus de 500 km à l'ouest de Téhéran.
Et après ça, les autorités nous ont demandé d'évacuer. On savait que si on restait, on risquait nos vies.
Mais ce professeur d'anglais d'une vingtaine d'années est toujours aussi inquiet.
C'est une peur silencieuse. Du matin au soir, ensemble, le claquement de porte nous fait sursauter. Les bureaux et les commerces sont ouverts. Il y a encore du pain, pas de pénurie pour le moment, mais on sent bien que ça pourrait changer vite.
Mohamed a décidé de rester à Téhéran. Il dit déjà constater des limitations d'achat de certains produits.
The bakeries are not selling bread.
Par exemple, dans les boulangeries, on demande aux gens d'être raisonnables, de ne pas acheter plus de 20 miches de pain en une fois, pareil dans les stations-service, de ne prendre que la quantité d'essence nécessaire. Les scènes d'embouteillage se multiplient avec la fuite des habitants de la capitale. Tout le monde devrait évacuer Téhéran maintenant, a posté hier soir Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Parallèlement, l'Iran, ce matin, a lancé plusieurs nouvelles salves de missiles sur Israël, où les sirènes d'alerte viennent de nouveau de retentir. De fortes explosions entendues à Tel Aviv et Jérusalem, nous apprend l'agence France Presse à l'instant. Et l'on se demande de quel arsenal dispose encore l'Iran, frappé depuis vendredi. Élément de réponse avec Claude Guibal.
Il y a 2 ans pile, l'Iran dévoilait avec fierté son premier missile hypersonique. Un engin d'une portée de plus de 1400 km, capable d'atteindre 15 fois la vitesse du son, tout en transportant une charge de plusieurs centaines de kilos. Un projectile quasi impossible à intercepter, une arme redoutable et donc capable d'atteindre Tel Aviv en quelques minutes. L'Iran en avait déjà tiré un premier l'an dernier, lors des premiers temps de l'escalade avec Israël. Un autre ce week-end. Combien lui en reste-t-il ? Peu, probablement. Mais au-delà, l'Iran possédait surtout avant l'attaque de vendredi l'un des plus gros arsenaux de la région, estimé à 2 ou 3 000 missiles balistiques ou de croisière, dont certains capables de parcourir au moins 2 000 km en emportant des charges allant jusqu'à une tonne. Environ 200 de ces missiles auraient été tirés depuis samedi, sans compter les drones, point fort de l'industrie d'armement iranienne. Malgré les destructions de stocks, le nombre de missiles restants serait donc important, mais leur utilisation est freinée par la destruction de 120 lanceurs, selon les Israéliens, qui estiment avoir ainsi neutralisé un tiers des capacités de lancement iranien.
Claude Guibal. Pendant ce temps-là, la guerre continue à Gaza, où de nouveau 20 personnes ont été tuées par l'armée israélienne hier en allant chercher de l'aide humanitaire, annonce de la défense civile de l'enclave. Et puis le monde et la guerre, c'est encore l'Ukraine, où des frappes russes ont fait au moins 14 morts cette nuit à Kiev, l'un des bilans les plus lourds depuis le début du conflit dans la capitale ukrainienne.
Il est 8h08, c'était Florence, la martingale de François Bayrou.
Et oui, un conclave entre les partenaires sociaux pour rediscuter de la réforme contestée des retraites, calcul réussi quand il est lancé en février puisqu'il permet au Premier ministre d'éviter la censure des socialistes. Près de 4 mois plus tard, on y est. Dernier rendez-vous inscrit à l'agenda des 5 participants encore présents, syndicats et patronat. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
Comme aucun accord n'est garanti, François Bayrou leur laisse finalement quelques jours de plus, si nécessaire, pour étudier la nouvelle idée qu'il vient de lancer.
Oui, avec une prime senior pour les salariés avec tout leur trimestre, qui accepteraient malgré tout de rester en emploi. Le Premier ministre l'a notamment présenté à la CFTC, 10% de la retraite versée en plus du salaire pour ceux qui seraient volontaires. Mais la CFDT et la CFE-CGC rappellent qu'à la base, l'idée du conclave était de permettre de partir plus tôt et non pas d'inciter à partir plus tard.
En sachant que les syndicats semblent avoir fait une croix sur le recul de l'âge de départ, en échange d'avancées sur la pénibilité, Maxime, et d'une concession sur un autre âge pivot.
Oui, à défaut de l'obtenir, revenir sur les 64 ans, ils espèrent encore faire bouger le curseur des 67, qui est en fait l'âge auquel vous pouvez partir à taux plein, même si vous n'avez pas tous vos trimestres. Les syndicats voudraient ramener cette borne à 66 ans, mais le patronat est contre. Impossible à financer avec un coût pour le système évalué à 1,2 milliard en 2030 par la CPM.
De fait, l'enjeu financier est fondamental dans ces négociations avec un déficit prévu de 6,6 milliards d'euros d'ici 5 ans.
Et c'est toute la difficulté de ces discussions où le patronat se dit prêt à faire des concessions. Oui, pour un meilleur calcul de la retraite des femmes, c'est un sujet. Oui, aussi pour une meilleure prise en compte des facteurs de pénibilité de certains métiers. Mais non à une hausse de cotisation de la part des patrons.
Maxime Debs du service économie et sociale de France Inter. Simplifié jusqu'à supprimer les ZFE. Le projet de loi est mal parti à l'Assemblée, qui prévoit toute une batterie de dispositions pour les particuliers, les entrepreneurs, les commerçants et la fin des fameuses zones à faible émission qui empêchent les vieilles voitures de rouler. Il devrait être rejeté, ce projet, cet après-midi, notamment par le groupe macroniste et par la gauche. La Légion d'honneur à titre posthume pour la surveillante de Nogent, tuée la semaine dernière. Proposition d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Les obsèques de Mélanie auront lieu aujourd'hui. Irradié par les essais nucléaires français entre 1966 et 1996, les Polynésiens ont vécu avec la bombe 193 essais, dont 46 en plein air, avec leurs conséquences sanitaires et les difficultés à faire reconnaître son statut de victime pour être indemnisé par l'État. Est-ce que ce sera plus simple à l'avenir? Une commission d'enquête parlementaire le souhaite dans un rapport qui sera rendu dans la journée. Explication et reportage signé Cécile de Kervès-Douai.
Depuis 2010, la loi Morin impose trois critères d'indemnisation pour les victimes des essais nucléaires. Avoir séjourné en Polynésie française entre 1966 et 1996, avoir développé un des 23 cancers radio-induits et avoir reçu une dose de radiation supérieure à 1 millisievert. Le problème, c'est que les données pour définir ce troisième critère ne sont pas disponibles, comme en témoigne Alberto Bono, qui, durant son service militaire, s'est nourri pendant 15 jours, comme la population locale.
Quand j'ai voulu avoir les résultats, j'ai mis 15 ans parce qu'il y avait une obstruction forte de l'armée et du CEA. Vous voyez, le 4 janvier 71, que j'ai été contaminé. Ça veut dire que la population a été contaminée.
Mais la question est de savoir pendant combien de temps. Dans l'archipel des Gambiers, situé à 300 km de Moruroa, Coralie et Aimée s'interrogent.
On a mangé tout ce qui venait de la terre, de la mer. Au bout de mes 24 ans, j'ai été atteint du cancer de la thyroïde.
Pour Daniel, 91 ans, qui faisait lui aussi des prélèvements dans la mer, il n'y a plus de doute possible. C'est sa fille Anna qui traduit.
Beaucoup de personnes sont parties à cause de cette contamination. Mais non, quelle preuve avons-nous? Comme preuve, il faut aller au cimetière. On demande à l'État français la réparation.
Pourtant, d'après la mission de l'État qui, depuis 2022, aide à monter des dossiers d'indemnisation, aujourd'hui, 60% des demandes des Polynésiens sont rejetées.
Reportage Cécile de Kervès-Douai, du nucléaire militaire au nucléaire civil, laisse le retour de la corrosion du parc français. Des micro-fissures ont été repérées sur des tuyauteries du circuit de refroidissement du réacteur numéro 2 de la centrale de Civaux. EDF veut rassurer en parlant d'événements isolés sans impact sur la production. Plusieurs réacteurs, on s'en souvient, avaient dû être mis à l'arrêt il y a 3 ans pour cause de corrosion. À cheval entre l'éthique, le business et la consommation, le commerce équitable se porte bien. Vente en hausse de 25% en 2024, notamment portée par la filière française. Mariam El Kurdi, c'est vous qui nous la prenez ce matin.
Alors qu'avant, on pensait surtout café ou chocolat et solidarité avec les petits producteurs des pays du Sud. Aujourd'hui, commerce équitable rime aussi beaucoup avec soutien des agriculteurs français. La croissance de la filière est poussée par l'augmentation des achats de produits portant à la fois le label et la mention Origine France, plus 65% en un an. Pour Julie Stoll, déléguée générale de Commerce Équitable France, la demande a poussé à diversifier l'offre. Et inversement.
Absolument tous les produits du quotidien alimentaire des Français peuvent être trouvés dans leur version issue du commerce équitable. Du lait, des fruits et légumes, des céréales, des œufs, de la viande. De plus en plus d'entreprises proposent des produits issus du commerce équitable. On a également des distributeurs qui joue plus le jeu aussi et qui en propose aux consommateurs. Et donc, ce sont des facteurs explicatifs de la montée en puissance du commerce équitable sur les filières françaises.
Preuve de cette montée en puissance, la part des produits français issus du commerce équitable représente en 2024 la moitié des ventes totales de la filière, contre un tiers l'année précédente.
Mariam El-Kurdi, SFR, présente de nouveau des excuses à ses abonnés ce matin après la panne qui a touché son réseau hier. Réseau rétabli totalement depuis minuit. Y aura-t-il de nouvelles médailles françaises au championnat du monde de judo? Margot Pino remet son titre en jeu aujourd'hui à Budapest, sacré l'an dernier en moins de 70 kilos. Et direction Gênes et l'Italie, maintenant les championnats d'Europe d'escrime où l'équipe de France a déjà gagné 5 médailles depuis samedi, dont 3 titres. Place désormais aux équipes pour les 3 dernières journées du championnat. Au programme aujourd'hui pour débuter le fleuret dames et le sabre homme. Les équipes ont évolué depuis les Jeux de Paris l'été dernier, mais les ambitions Marion Ferrer sont toujours les mêmes.
Le fleurettiste Maxime Potti, médaillé de bronze par équipe l'été dernier à Paris, affiche clairement son objectif.
Au final, c'est un peu le minimum par équipe.
Saison terminée plutôt pour les uns, opération médicale pour d'autres. Maxime Potti est le seul rescapé des JO. Mais en fleuret, la France est tenante du titre européen. Pas question de revoir les ambitions à la baisse.
Bon, on a quand même envie de performer tous ensemble. Nous, on est un groupe d'entraînement de 12 athlètes, voire 20 si on élargit un petit peu. Donc en fait, à chaque fois, c'est un peu les 4 meilleurs de la saison qui sont envoyés. Donc on a confiance dans la force du collectif et du groupe. Et on sait que les 4 qui y vont, bah, c'est ceux qui peuvent ramener des médailles à la France.
Discours similaire pour la vice-championne olympique au sabre, Sarah Balzer.
Par équipe, ça fait 3 années de suite que l'équipe gagne. Donc ce serait cool aussi d'aller chercher ce 4e titre.
Même si l'équipe a été remaniée à 50%.
C'est des jeunes, elles sont nouvelles, elles font pétiller le groupe. Donc c'est super. Et quand je suis rentrée en équipe de France, j'avais aussi des filles avec plus d'expérience qui m'ont aidée. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se transmette pas à nouveau.
Le fleuret dames et le sabre homme débutent ces épreuves par équipe aujourd'hui. Des armes qui ont déjà rapporté 3 médailles individuelles à la France, dont 2 en or, au début de ces championnats d'Europe.
Marion Ferrer, voici maintenant un commissaire idolâtré en Italie. Plus d'un million de lecteurs français ont aussi succombé à son charme et à son goût pour la bonne cuisine. Le commissaire Montalbano, surnommé le Maigret sicilien, est de retour en librairie pour la toute dernière fois. Son auteur Andrea Camilleri, mort en 2019, avait tout prévu, comme dans un bon polar. Ce dernier opus Riccardino dormait dans un coffre, selon sa volonté. Il souhaitait, Ilana Moryoussef, une publication après sa mort.
S'il fallait citer 3 symboles de la Sicile, on dirait l'Etna, le guépard et le commissaire Montalbano, invention du génial Andrea Camilleri. En France, on le connaît grâce à son traducteur de toujours, Serge Quadrupani.
Le commissaire Montalbano, c'est un Maigret sicilien, c'est-à-dire c'est un personnage un peu ronchon, mais qui a un très grand cœur et qui veut surtout rétablir la justice plutôt qu'à toute force envoyer des gens en prison.
Montalbano, c'est aussi un amour immodéré pour la bonne bouffe et un verbe truculent.
C'est une langue très particulière, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Camilleri l'a apprise à toute l'Italie, parce que Camilleri est devenu un phénomène d'édition extraordinaire. À partir d'un certain moment, il a été en tête de toutes les ventes. À chaque fois qu'il sortait un livre, il a appris toutes sortes de mots qu'on retrouve aujourd'hui dans la conversation en parlant avec des Italiens.
Avant de mourir, en 2019, Camilleri avait mis au coffre la dernière aventure de Montalbano.
Il en parlait souvent. Il me disait, oui, à la fin, Montalbano disparaît. Il me disait, je te dis pas comment, tu verras bien. Ça fait presque 30 ans que je vivais avec Montalbano, donc on peut imaginer mon état d'esprit.
À nous lecteurs, il reste tous ses romans, pleins de plats savoureux et d'une invention verbale qui, toutes les 3 lignes, provoque des éclats de rire.
Et on peut déjà se ruer sur Riccardino, l'ultime Andrea Camilleri, dernier volume des aventures du commissaire Montalbano aux éditions Fleuve Noir.
Merci, merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Et de petits brouillards matinaux.
Et oui, Nicolas, dû à la poussée anticyclonique, des brouillards qu'on retrouve vers la Bretagne, le Calvados, le Cotentin, mais aussi vers le Pays de Caux, des brumes qui se dissiperont rapidement avec le soleil. Sur les autres régions, c'est soleil, donc qui l'emporte également avec du vent en Méditerranée qui faiblit, mais pas en Corse, sous des températures très contrastées encore ce matin, malgré l'air chaud qui commence à remonter tout doucement vers le nord. Actuellement, vous n'avez pas plus de 8 degrés dans la Creuse ou à Chaillac dans l'Indre, mais 21 à Porquerolles. Il fait 9 au Puy-Loude, 10 à Berthelot, Bergerac, 11 à Nemours et Saint-Étienne, 12 à Mont-de-Marsan ou Évreux, 12 à Quimper, 13 à Lille et 16 à Paris.
Et nouvel après-midi ensoleillé.
Oui, et ce beau temps, Nicolas, va se stabiliser au moins jusqu'au week-end avec l'installation de l'anticyclone qui va d'ailleurs former une situation de blocage en oméga d'ici jeudi. Cet après-midi, on va avoir, comme hier, quelques cumulus au nord de la Seine, mais avec l'effet de brise maritime, le ciel se dégagera près des côtes de Manche, excepté au nord du Cotentin et vers les côtes d'Armor. Et comme en été, on va observer quelques bourgeonnements sur le relief des Alpes du Sud, lâchant une ou deux averses avec le vent qui va souffler de moins en moins en Méditerranée, mais pas encore. C'est côté du Mercure, ça va monter encore de 2 à 3 degrés en journée, mais des valeurs qui vont rester aussi contrastées entre le nord et le sud comme le matin. Vous n'aurez pas plus de 21 à Berck sur la côte d'Opale, alors qu'il fera 34 à Perpignan, 21 sur la pointe du Cotentin, 32 à Angoulême, comptez 24 à Dunkerque et Biarritz, 26 à Rouen, 27 à Metz, 28 à Nevers. On va passer les 30 à Paris, Lyon, 31 Bordeaux et Marseille, en se rappelant Nicolas Léonard de Vinci, jamais le soleil ne voit l'ombre.
Ça c'est du... C'est profond ça, hein. Pierre, on est d'accord, très très profond. Merci Marie-Pierre. Il est
8h20. Le 7-10. Listen anywhere. Huawei Duba. Wahdahu min Suria. Nibrinit. Sur France Inter.
Géopolitique, Pierre Aski donc, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous revenez Pierre sur les dernières déclarations de Benjamin Netanyahou.
La phrase du Premier ministre israélien est sans ambiguïté. Tuer l'ayatollah Ali Khamenei, a-t-il dit à la chaîne américaine ABC, ne provoquerait pas une escalade, ça mettrait fin au conflit avec l'Iran. Je m'interrogeais hier matin sur le but de guerre d'Israël, changement de régime en Iran ou pas. Benjamin Netanyahou a répondu clairement hier soir, il n'exclut pas de frapper au sommet de la pyramide du pouvoir iranien, le guide suprême ayant en Iran plus de pouvoir que le président. Cette déclaration est spectaculaire à deux niveaux. D'abord, elle en dit long sur le sentiment de puissance d'Israël, qui a fait la preuve en 4 jours de sa suprématie militaire, au point de pouvoir annoncer que le chef du pays ennemi est la cible. C'est dans la logique de ce qu'Israël a annoncé d'entrée de jeu, appliquer à l'Iran le sort infligé au Hezbollah libanais, et on se souvient de l'élimination de son chef tout-puissant, Hassan Nasrallah. Le deuxième élément spectaculaire, c'est la capacité d'Israël à assumer un possible assassinat ciblé à ce niveau du pouvoir, sans craindre la moindre conséquence internationale.
Et ça, Pierre, comment l'expliquez-vous ?
Alors lundi, des informations dans la presse américaine avaient fait état d'un veto de Donald Trump à la suggestion par Netanyahou qu'il pourrait chercher à éliminer l'ayatollah Khamenei. Moins de 24 heures plus tard, Netanyahou lui-même l'annonce, signalant ainsi que si veto américain il y a eu, il n'existe plus, il se sent suffisamment fort et protégé pour le proclamer. La relation Trump-Netanyahou interpelle dans cette phase. Le président américain a semblé flotter, se contredire et suivre le lead de Netanyahou en déclenchant sa guerre totale contre l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était 48 heures avant la reprise des négociations irano-américaines à Mascate, et Donald Trump avait semblé désapprouver une action militaire à ce stade. Mais quand les bombardements ont commencé, il a félicité Israël. Aujourd'hui encore, il est difficile de suivre Donald Trump. Il appelle à l'évacuation de Téhéran, mais laisse entendre que la négociation est toujours possible avec l'Iran sur son programme nucléaire. Et il dit qu'il ne compte pas intervenir dans le conflit tant que les intérêts américains ne sont pas touchés.
Et Donald Trump pourrait-il stopper Israël ?
Alors c'est Trump et lui seul qui peut stopper la guerre, Nicolas. Mais il ne le fait pas, ou pas encore. Il est clair que les Américains sont ravis que le programme nucléaire iranien soit affaibli. Les Israéliens espèrent plus toutefois, car les États-Unis sont les seuls à posséder la méga-bombe qui pourrait détruire le centre nucléaire enterré de Fordo. Si on écoute Netanyahou, il n'y a pas de limite à cette guerre, pas même le sort de l'ayatollah Khamenei, le successeur de Khomeini. Mais si on écoute Donald Trump, la guerre peut durer encore 3 ou 4 jours avant de prendre fin, sans doute sur une négociation avec un Iran considérablement affaibli. Mais Trump a sèchement contredit Emmanuel Macron qui avait évoqué un cessez-le-feu. Pour l'heure, c'est Netanyahou qui est à la manœuvre et il ne voit pas de limite à son action en Iran, ni militaire avec la supériorité de son armée, ni diplomatique avec la couverture américaine qui lui garantit le temps et l'impunité. Il faut donc le prendre au sérieux quand il dit que Khamenei est une cible.
Pierre Aski, merci. Les invités du 7-10 ce matin, à votre micro Léa dans une heure.
Oui, c'est à lui qu'on doit la vasque et la torche olympique qui s'élèvera à nouveau, la vasque qui s'élèvera à nouveau dans le ciel de Paris samedi prochain. Il a été élu designer de l'année. Les Américains raffolent de ses créations. C'est le designer Mathieu Lehaneur qui est notre invité à 9h20.
Et dans un instant, le grand entretien avec François Hollande.
Hola à todos. Vous faites quoi le 21 juin?
Le Crédit Mutuel et France Inter donnent le la pour la fête de la musique.
Rendez-vous en direct de l'Olympia pour le concert de l'année.
Avec Benjamin Biolay.
J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler.
Et aussi Clara Luciani, Giorgio
et Yamé. Ils vont vous faire danser jusqu'au bout de la nuit.
La fête de la musique à l'Olympia,
c'est ce samedi sur France Inter à partir de 20h.
Les chèques vacances de la NCV vous offrent ce moment d'évasion en attendant vos congés. Avec plus de 120 000 partenaires, les chèques vacances vont donner vie à vos envies. Rendez-vous vite sur le guide.ancv.com. L'évasion commence ici.
Il est 8h24.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un ancien président de la République, aujourd'hui député socialiste de Corrèze. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application Radio France. François Hollande, bonjour.
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 Et bienvenue sur Inter. On va revenir sur le congrès du PS, sur la fin du conclave, sur les retraites. Mais on voulait évidemment vous entendre d'abord sur l'escalade militaire entre Israël et l'Iran depuis vendredi. François Hollande, à quoi assiste-t-on vos yeux, avec l'ouverture de ce front iranien par Israël, à un basculement historique au Moyen-Orient, à l'aboutissement d'une recomposition totale de la région, au risque d'un embrasement général. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, avec cette nouvelle guerre ?
Ce qui se joue, c'est non seulement l'avenir de cette région, mais c'est aussi l'équilibre du monde. Car si la force s'impose, comme elle s'est déjà imposée en Ukraine, si Israël va jusqu'au bout, au-delà de son droit légitime à se défendre et à empêcher l'Iran de disposer de l'arme nucléaire, c'est-à-dire jusqu'à abattre le dirigeant de l'Iran, même si l'on sait que ça n'aura pas forcément d'effet direct, oui, il peut y avoir un embrasement du monde. Et c'est la raison pour laquelle la volonté de la communauté internationale, si elle existe encore, c'est de demander une désescalade. Mais le responsable de la situation, au-delà de ce que l'on peut dire de la volonté d'Israël d'aller jusqu'au bout, et donc de Netanyahou d'être dans une forme de fuite en avant, même s'il a le droit légitime de se défendre par rapport à la possession de l'arme nucléaire, c'est Donald Trump le responsable. Bien sûr que l'Iran est responsable de tout ce qui s'est produit, mais je vais rappeler ce qu'était la situation lorsque il y a eu un accord sur le nucléaire iranien. Durant mon quinquennat, il y a eu un effort, une négociation très longue, c'était Laurent Fabius qui était ministre des Affaires étrangères, et nous avions conclu un accord, Obama était président des États-Unis, qui faisait que l'Iran ne pouvait plus accéder à l'arme nucléaire avec des vérifications qui...
Oui, mais ça c'était il y a 10 ans.
Oui, non, mais j'y viens. C'est parce que, arrivant au pouvoir, Donald Trump a brisé cet accord et sorti de l'accord qu'il y a eu donc, de la part de l'Iran, une poursuite de son programme d'enrichissement et donc une menace nucléaire. Et aujourd'hui encore, Donald Trump a laissé penser qu'il pouvait y avoir une négociation. Visiblement, Netanyahou ne l'a pas cru et il y a eu cette intervention. Et aujourd'hui même, il quitte le sommet du G7 et on ne sait pas si c'est pour encourager Netanyahou à aller jusqu'au bout de l'opération militaire ou si c'est pour faire pression sur le régime iranien pour le convaincre d'aller le plus vite possible à la négociation.
Là, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est ce qu'il vient de déclarer Donald Trump, et c'est une parenthèse, mais c'est vrai qu'il vient de le déclarer. À l'instant, il a déclaré que son départ anticipé du G7 n'avait rien à voir avec un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, et il a reproché à Emmanuel Macron, parce qu'il avait laissé dire ça à Emmanuel Macron, qu'il partait pour gérer un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, de ne rien comprendre, volontairement ou pas. Emmanuel Macron ne comprend jamais rien, a dit Donald Trump là, il y a quelques minutes.
Oui, je ne vais pas commenter ce que peut dire Donald Trump de Emmanuel Macron, même si, entre dirigeants, ce type de déclaration, dans un monde civilisé, ça ne se fait pas. Entre alliés, ça ne se fait pas. Mais est-ce que Donald Trump se considère encore aujourd'hui comme lié par des relations internationales stables et considère les pays européens comme des alliés ? Alors après, il y a les hypothèses. Donc,
mais parce que quelle doit être la position de la France? On vous entend ce matin, vous dites qu'il faut la désescalade et on ne demande pas la désescalade. Et si jamais la communauté internationale devait exister encore? Bon, on voit qu'elle est mise à mal, la communauté internationale. Là, il y a la voix de la France qui vaut encore quelque chose, non?
Oui, bien, la voix de la France, alors, comme la voix des Européens.
Qu'est-ce que vous dites ce matin?
C'est de dire qu'il faut cesser le feu en Iran, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte contre les populations civiles et en Iran et en Israël, qu'il faut rappeler le nombre de morts et en Israël et en Iran, la volonté, ça doit être retourné vers la négociation. Est-ce que la négociation est possible?
Mais oui.
C'est la question. Est-ce que l'Iran veut aller à la négociation ou préfère continuer
dans son programme nucléaire à se doter de l'arme nucléaire?
Parce
que c'est ce que dit, c'est ce que dit Israël. Israël dit qu'ils sont à moins d'eux de l'avoir, l'arme.
Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça fait des années qu'ils progressent dans l'enrichissement. Et donc, si l'Iran ne va pas à la négociation, ben, il est tout à fait à craindre que Israël continue ses frappes et que même les États-Unis puissent l'accompagner.
Et Benjamin Netanyahou va plus loin encore sur NBC en affirmant que tuer le guide suprême permettra de mettre fin au conflit. C'est ça qui permettra de mettre fin au conflit. Votre réaction à une déclaration de ce
genre? Cette déclaration a deux objets. Le premier, c'est de faire une pression directe sur l'ayatollah. Je vous tue si vous n'allez pas à la négociation pour renoncer à l'arme nucléaire. Mais la deuxième hypothèse, c'est qu'ils peuvent le faire. Ils ont tous les moyens, toutes les capacités pour le faire. Et si ça se faisait, est-ce que ça renverserait le régime iranien? C'est une hypothèse qui est, à mon avis, assez osée. Car nous savons bien que dans ce type de situation, le pays fait davantage bloc qu'il ne se divise.
Mais vous imaginez là que ça peut s'arrêter dans quelques jours, dans quelques semaines, que les Iraniens repartent à la table des négociations. Vous pensez que Donald Trump va jouer ça? Donald Trump n'exclut pas de pouvoir participer aux côtés d'Israël aux frappes contre l'Iran, là. On ne va pas trop vers la désescalade, c'est ça que je veux dire.
Le problème avec Donald Trump, c'est que lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut et qu'il peut changer de position du jour au lendemain. Hier, il souhaitait négocier avec l'Iran pour que l'Iran n'accède pas à l'arme nucléaire. Aujourd'hui, il donne le sentiment de soutenir Netanyahou, y compris dans une offensive qui prendrait cette ampleur. Donc, ce qui peut être au mieux compris, c'est que nous sommes dans un moment clé. Est-ce que, face à cette pression sur l'Iran, qui est forte, à la fois sur le plan militaire et sur le plan du risque, y compris pour ses propres dirigeants. Est-ce que l'Iran va à la négociation dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent? Et à ce moment-là, il peut y avoir une désescalade. Ou si l'Iran continue à prétendre pouvoir accéder à l'arme nucléaire et à ne pas rentrer dans un processus de négociation, le pire est à craindre.
En tout cas, l'attaque d'Israël sur l'Iran, François Hollande, a entraîné le report de la conférence à l'ONU sur la possible reconnaissance de l'État palestinien. Emmanuel Macron précisant qu'elle aura lieu au plus vite. Vous regrettez l'annulation de cette conférence?
Je crois qu'elle ne pouvait pas se tenir dès lors que les pays de la région ne souhaitaient plus s'y engager dans le contexte que nous connaissons, c'est-à-dire de la guerre entre l'Iran et Israël. À partir de là, oui, il faudra qu'elle soit reprise, puisqu'il faut aussi un cessez-le-feu à Gaza et le plus rapidement possible, et qu'il faut aussi trouver une solution à deux États. Et la solution à deux États suppose de reconnaître les droits des Palestiniens à disposer de cet État.
Vous pensez qu'Emmanuel Macron doit reconnaître dans les prochaines semaines l'État de Palestine?
Je pense que la première exigence, c'est le cessez-le-feu. Là aussi, sur la pression qu'il faut exercer sur Israël. C'est de dire, arrêtez cette opération. Elle a atteint au-delà même de ses objectifs, puisque nous avons une population à Gaza qui est affamée, nous avons des bombardements qui continuent. Cette nuit encore, il y a eu des morts à Gaza. Donc arrêtez cette opération ensuite rentrer dans une négociation. Et si vous ne le faites pas, oui, il y aura nécessairement une initiative diplomatique qui sera prise. Alors ce sera une déclaration formelle de reconnaissance, ça ne changera rien sur le terrain à la réalité de ce que vivent les Gazaouis ou de ce qu'espèrent les Palestiniens, c'est-à-dire le droit à un État, et ce qu'espèrent les Israéliens, c'est-à-dire le droit à la sécurité. Mais il faut bien qu'il y ait un moment des étapes diplomatiques.
On a retrouvé en 2012 dans votre programme, François Hollande, ça remonte, vous disiez « je soutiendrai la reconnaissance de l'État palestinien ».
Oui, nous
vous
avons
l'avez
failli...
pas fait.
Nous l'avons pas fait. Nous avons failli aboutir, l'idée était une reconnaissance, pas simplement par la France. L'idée, c'était une reconnaissance par l'ensemble des parties prenantes, en l'occurrence Israël aussi. Nous avions imaginé une conférence qui aurait pu se tenir en 2016. Elle était prévue au dernier moment, Netanyahou l'a annulée.
Israël est vent debout contre la France à cause du salon aéronautique du Bourget. Le gouvernement français a ordonné de condamner l'accès au stand de 5 industriels israéliens de l'armement exposant des armes offensives, des armes susceptibles d'être utilisées à Gaza. Décision scandaleuse, a dit le président israélien Isaac Herzog. Qu'en pensez-vous ?
C'est une décision qui s'imposait. Dans un contexte où il y a des pays belligérants, présenter des armes offensives aurait été compris comme un accompagnement ou une incitation à la poursuite d'un conflit. Donc il était nécessaire que les organisateurs de ce salon, c'est-à-dire le gouvernement, puissent dire qu'il n'y aura pas de présentation d'armes offensives israéliennes.
Encore un mot sur l'international, avant d'arriver à la situation de la France et du conclave, on veut vous entendre sur le conclave sur les retraites. Que vous a inspiré l'expédition du navire humanitaire vers Gaza, la flottille avec Greta Thunberg, Rima Hassan et d'autres? Quel regard vous avez porté sur ça?
Bon, des opérations comme celle-là, c'est pas humanitaire, c'est pas pour apporter des vivres en grand nombre. C'est toujours des opérations spectaculaires, c'est un peu différent. C'est-à-dire, si l'objectif était de dire il se passe une tragédie à Gaza, cet objectif est compris. Si c'est simplement pour mettre en cause l'État d'Israël, utiliser encore un vocabulaire antisioniste, cette opération pouvait être regardée comme organisée politiquement, ce qui était d'ailleurs le cas, récupérer politiquement ce qui était vrai, et ensuite de faire de, non pas Greta Thunberg, mais de la personne qui l'accompagnait, une héroïne, puisque ça a été jusque-là, de la part de dirigeants de la France insoumise, de considérer que c'était elle, l'héroïne. Mmh. Alors que, je rappelle qu'elle a tout à fait le droit de défendre la cause palestinienne, mais qu'elle remet en cause l'État d'Israël.
Allez, venons-en à la France. Dernière séance de négociation aujourd'hui entre les partenaires sociaux réunis en conclave. Ce conclave voulu par François Bayrou. S'il y a un accord, François Hollande, entre la CFDT et le MEDEF, qui porte sur la pénibilité, sans toucher aux 64 ans, est-ce que vous le soutenez? Est-ce que le PS doit le soutenir?
Je n'engagerai pas le PS, mais moi je soutiendrai tout accord qui sera signé par les partenaires sociaux. Je suis attaché à la démocratie sociale, au dialogue social. Il y a eu une volonté d'ouvrir une négociation. Elle aurait pu, on n'est pas encore au terme de cette discussion, elle aurait pu déboucher sur un accord plus ample, mais c'est un accord qui va améliorer, ou qui supposait améliorer, la vie de personnes qui ont travaillé longtemps, ont eu des métiers pénibles, et les femmes. S'il n'y a pas d'accord, alors là, c'est pour ça que la pression doit être encore forte sur le patronat, s'il n'y a pas d'accord, si les syndicats réformistes disent qu'ils ont été floués, alors je pense que le gouvernement aura de grandes difficultés à l'Assemblée nationale.
Il y aurait motif de censurer François Bayrou dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'accord? Il y aurait, à vos yeux, motif de censurer François Bayrou et son gouvernement?
C'était quand même un des arguments qui avait été avancé pour la non-censure. Le fait qu'il puisse y avoir un conclave, une négociation, et que l'accord puisse être trouvé pour améliorer la situation des salariés et des personnes qui vont accéder à la retraite. Donc je veux croire qu'il faut peut-être prendre encore du temps, mais je veux croire que le patronat va comprendre qu'il est nécessaire de conclure un accord. Car qu'est-ce qui est à craindre pour les entreprises? Je comprends le souci des entreprises. C'est l'instabilité. Donc, je pense que le prix de la stabilité, c'est de donner à des personnes, notamment les femmes, notamment ceux qui ont des métiers pénibles, des améliorations de leur situation par rapport à la loi Borne.
La France insoumise dit on ne se contente pas d'un accord à minima. Nous, ce qu'on a dit, c'est abrogation des 64 ans. Et s'il n'y a pas abrogation des 64 ans, c'est la censure. Mais vous dites non.
C'est leur position, oui. Moi, la position, la mienne, celle des socialistes, ça a été toujours de vouloir que le dialogue social puisse l'emporter. Il y a un dialogue dans un contexte politique qui n'est pas celui que l'on pourrait espérer. Bon, la gauche n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, à ce que je sache. Donc, à partir de là, toute amélioration de situation, dès lors qu'il ne peut pas être revenu à 62 ans, toute amélioration de la situation va dans l'intérêt, je pense, de notre pays.
François Bayrou présentera mi-juillet sa copie pour le budget 2026. Il veut 40 milliards d'économies et va demander un effort à tous les Français, pour reprendre ses termes. Les pistes d'une TVA sociale ou d'une année blanche circulent. Vous y êtes favorable ?
Je pense que cette méthode n'est pas la bonne. C'est-à-dire avancer des propositions qui, chaque fois, suscitent, à tort ou à raison, mais plutôt à raison, une certaine indignation ou une certaine inquiétude. Bon, j'attends du Premier ministre, de son gouvernement, qu'il présente enfin une proposition globale, avec des efforts qui peuvent être demandés, car il en faudra. Il y a un déficit, il y a un endettement, il faut donc des efforts. Ces efforts devraient être partagés. Donc il n'est pas concevable qu'il n'y ait aucune disposition sur les fortunes les plus importantes de notre pays ou les ménages les plus favorisés. Donc il est nécessaire qu'il y ait un bloc de propositions. Ensuite, vraisemblablement, je suis dans l'opposition, ce plan ne m'agréera pas, puisqu'il sera sûrement déséquilibré. Il y a une majorité qui est au centre et au centre droit, pour ne pas dire à droite. Mais à partir de là, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a la stabilité, là encore, qu'il faut chercher, ou est-ce qu'il faut aller vers
la censure, quel est votre point de vue? Parce qu'on a pu lire dans la Tribune dimanche que vous aviez envoyé à un SMS, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, à François Bayrou en lui disant « j'ai payé ma dette, en gros je ne t'ai pas censuré sur le budget, je ne t'ai pas censuré quand tu as dit submersion migratoire, ça y est, ma dette est payée, ma dette », renvoyant à son soutien au moment de votre élection à vous. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, je dis que j'avais, non pas simplement payer ma dette, parce que ça, je ne suis pas dans une relation comme ça qui voudrait que ce soit une affaire personnelle. Ce que je crois, c'est qu'à un moment, l'intérêt du pays justifie qu'il y ait une stabilité avec un gouvernement qui ne me convient pas, quelles que soient les relations que j'ai pu avoir dans le passé avec François Bayrou. Mais à partir de là, je reviens à votre question. Si certains pensent à la censure, si elle devait intervenir, il peut y avoir des raisons. Si elle devait intervenir, elle aboutirait nécessairement, si le Rassemblement national s'y ajoute, a donc renversé un gouvernement et a une dissolution possible. Je ne souhaite pas des élections avant 2027. Pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que je considère qu'aujourd'hui, ces élections, soit ne changeraient rien à la situation de l'Assemblée nationale, soit seraient encore un risque supplémentaire de l'extrême droite. Donc à partir de là, je pense que la seule élection qu'il convient de préparer, pour l'ensemble des forces politiques, c'est l'élection présidentielle. En attendant
quoi ?
En attendant.
La question, c'est de dire, pendant un an et demi, on fait rien ou pas grand-chose pour maintenir le gouvernement.
Ça, c'est au gouvernement de faire des propositions, il peut agir, rien.
Mais ça vous satisfait, Édouard Philippe, parler de l'immobilisme depuis des mois.
Édouard Philippe, il est dans cette majorité. Moi, j'y suis pas. C'est pas moi qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Mais c'est vous qui pouvez faire tomber le gouvernement. Vous et les autres.
Je pense qu'on a une responsabilité particulière. C'est-à-dire que ce gouvernement, s'il devait tomber, il serait remplacé par qui ? Par un autre Premier ministre qui serait de la même majorité, poursuivant la même politique. Quel est le sens de tout ça ? Sauf si ce gouvernement multiplie éventuellement des provocations. On a dit ce qu'on avait à dire sur le conclave ou sur le budget. S'il y avait des choses qui seraient intolérables, tout à fait légitime de dire on ne peut pas les supporter. Mais autrement, ma position, c'est de dire nous sommes dans la minorité, nous devons travailler pour qu'il n'y ait rien de pire qui soit imposé au pays, c'est-à-dire aucune mauvaise décision, voire même qu'il puisse y avoir des améliorations, c'est le sens du conclave, et puis ensuite il y aura des élections. Et les élections permettront d'avoir un président de la République et une majorité à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Si jamais il y avait dissolution, si jamais il y avait de nouvelles élections, justement,
Oui, quelle est votre question?
La question, c'est Nicolas.
La ligne.
Oui, alors, je peux l'anticiper si vous voulez. Je peux aussi faire des questions. Donc, alors, s'il y avait une
non,
solution,
on va vous la poser.
Question, c'est, est-ce que vous feriez un accord avec LFI?
Il y a des mots importants quand même. Nicolas Mayer-Rossignol a demandé solennellement à Olivier Faure de dire et écrire et affirmer unanimement qu'il n'y aura pas, sous aucun prétexte, ni au plan national, ni local, même en cas de dissolution, d'alliance avec la France insoumise. Refus d'Olivier Faure, qui estime que le Congrès tranche cette question de ligne. Alors, c'est tranché, c'est pas tranché.
Votre avis.
C'est quoi?
Alors, je pense que c'est...
On attend une réponse. Là.
Oui, là, mais c'est pas moi qui suis premier secrétaire du Parti Socialiste. Il y a deux lignes au Parti Socialiste, chacun l'a compris. Il y en a une
qui a
eu...
Il y en a un qui a gagné.
Il y en a une qui a eu un peu plus de voix.
Oui, mais il a gagné.
Et donc, il a... Donc, comme le
Olivier
le
Faure
dit,
a gagné.
Salamé, il a gagné de quelques
voix. Vous l'avez félicité.
Mais oui, mais il a
vous
gagné.
Félicité,
donc
Olivier Faure,
il a donc cette responsabilité de donner ce qui devrait être la position du Parti Socialiste. Moi, je vais vous donner la mienne. La mienne, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accord avec LFI. Pour quelle raison? Parce que sur beaucoup de sujets internationaux, beaucoup de sujets liés à la vie politique et la manière de la mener, beaucoup de sujets, y compris sur les questions économiques et sociales, il y a une contradiction tellement forte entre les positions de LFI et les positions de la gauche qui n'est pas LFI, eh bien qu'il n'est pas possible d'avoir un accord électoral aujourd'hui.
Avez...
Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il n'y ait pas de dissolution et pour qu'il y ait une élection présidentielle le moment venu, c'est-à-dire en 2027, parce que je rappelle que pour une élection présidentielle, il n'y a pas besoin d'avoir un accord électoral.
Vous ne voulez pas répondre à ma question, vous avez félicité Olivier Faure.
Oui, je dis qu'il était le premier secrétaire, il avait été élu. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin quand même.
Oui. Ça veut dire non, vous ne l'avez pas félicité. Une primaire de la gauche pour désigner un candidat pour 2027, c'est ce que souhaite Olivier Faure. Il a tort, la gauche peut se permettre de partir désunie et divisée.
La priorité, c'est que le Parti Socialiste doit avoir un programme. C'est quand même la condition pour figurer dans une élection présidentielle, soit directement, soit par le passage par une primaire. Donc le premier devoir du premier secrétaire, c'est de préparer un programme. Et sur la base de ce programme, voir s'il est compatible avec les autres familles de la gauche, justifiant qu'il puisse y avoir une primaire. Mais je vais vous raconter ce qu'est quand même une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est pas un accord entre partis. Une élection présidentielle, c'est pas une tractation, c'est même pas une primaire plus ou moins organisée. Une élection présidentielle, c'est une figure avec donc une candidature, avec un projet et une vision pour le pays. Et ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Et c'est un rapport entre les Français et cette figure-là qui doit donner confiance et qui doit
fixer...
Mais
ça peut passer par une primaire, non ?
Non, ça peut pas forcément passer par une primaire. Moi, j'ai eu cette procédure dans le cadre du Parti Socialiste, c'était pas toute la gauche, c'était le Parti Socialiste. Je pense que la formule des primaires a montré toutes ses limites, voire même ses dangers. Donc je pense que l'élection présidentielle, c'est bien sûr un candidat qui est issu d'une famille politique et qui va porter ce projet, donner sa vision. Et aujourd'hui, il faut incarner, vous voyez le mot qui compte, c'est l'incarnation d'une autorité, car il faut une autorité dans ce pays. Il faut une autorité rassurante. Le monde est totalement déstabilisé. Il y a une peur qui monte partout, dans toutes les catégories de la population.
Il faut une autorité rassurante.
Mais non, je ne vais pas m'ajouter à cette liste. Moi, j'ai déjà été présent. Je donne ce qu'est une élection présidentielle et ce que doit être un mandat présidentiel.
François Hollande, deux petites questions pour terminer. Lors du congrès du Parti Socialiste dimanche, le député socialiste Jérôme Guedj a parlé de Jean-Luc Mélenchon comme d'un salopard antisémite. Votre avis ? Jean-Luc Mélenchon a demandé des excuses.
Oui, Jérôme Guedj s'est exprimé.
Il a dit je regrette salopard, je garde antisémite,
mais
c'était bien suffisant.
Jérôme Guedj, ça fait des mois et des mois qu'il est insulté, qu'il est agressé par les amis de Jean-Luc Mélenchon, qu'il est accusé de tout. Et à un moment, on voudrait que ce député, qui a eu une relation plus personnelle avec Jean-Luc Mélenchon, dont il a été autrefois, il y a longtemps, un des plus proches, et on voudrait qu'il ne réagisse pas quand il se fait, à chaque fois, non pas simplement sermonner, ça fait partie de la vie politique, mais accuser, montrer du doigt. Donc moi, je soutiens, non pas les mots mais je soutiens ce que Jérôme Gadge. Quant à l'antisémitisme, écoute, LFI est tout sauf un barrage contre l'antisémitisme.
Un dernier mot, Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation définitive à un an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Vous comprenez cette décision ou elle vous choque ?
Je n'ai ni à la comprendre, ni à être choqué. C'est l'application stricte du règlement. Ce n'est pas d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron, qui en a décidé. C'est le chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur. Et il n'avait pas de choix. Toute personne condamnée, personne n'avait imaginé que ça pouvait être un président de la République. Toute personne disposant, ayant été distinguée de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite, toute personne condamnée à plus d'un an de prison
perd
sa Légion d'honneur. Il n'y avait pas d'autre choix. Et je pense que c'est évidemment douloureux.
Merci François Hollande.
Merci d'avoir été au micro d'Inter. Il est 8h49.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
La revue de presse, Claude Askolovitch.
France Inter. Le 7-10.
Claude, vous nous parlez de surnoms.
Ouais, et d'abord le beau surnom qui était celui de Jackie Hennu, qu'on appelait Hortensia, et que vous contemplez dans Nord Littéral et dans La Voix du Nord. Massif, tendre, maquillé, perruque, trois rangs de fossiles, ou bien simplement copain en t-shirt rayé, près de son pote et patron Michou, qui l'embauchant dans son cabaret transformiste à Montmartre, l'avait rebaptisé donc Hortensia. La plus grosse des fleurs, hommage à sa corpulence, parce que toi, t'es un massif à toi tout seul. Et avec Hortensia, qui est parti dimanche à 81 ans, nous vient une histoire à l'opposé des malheurs du monde, et me revient une époque. Je lis les noms de Johnny Hallyday, Andy Warhol, Cher, Nicoletta, Sylvie Vartan, Yves Mourouzi, Claude François, il les a tous connus. Claude François, pour qui Jackie, qui n'était pas encore Hortensia, avait concocté une sublime salade composée. C'était un soir où le chef n'était pas là chez Castel, au lieu de la nuit, Jackie y était serveur. C'était un enfant de Boulogne-sur-Mer qui n'avait pas voulu rester au pays, travailler le poisson. Il était monté à Paris le jour de ses 21 ans, majeur, avec une valise en carton. Avant Castel, il avait été maître d'hôtel chez Robert Mitterrand, frère de François. Après Castel, donc Michou, qui lui avait offert son grand rôle, celui de Brigitte Bardot, qu'il sublimait. Il disait Hortensia qu'il avait en commun avec Brigitte des problèmes de hanche. Il a écrit ses mémoires avec un confrère du Nord, Gauthier Navet, qui en a de la chance. Dans Libération, nous vient l'autre surnom du jour, Barbie Boucher. Ainsi, les gendarmes de Guadeloupe avaient rebaptisé Karine Dabadi, qui dirigeait l'Institut médico-légal de Pointe-à-Pitre. Boucher parce que, médecin Saint-Légiste, elle disséquait les cadavres. Barbie parce que, eh bien, regardez sa photo, tout en longueur, tout en blondeur, ci-devant mannequin pour payer ses études de médecine. En Guadeloupe, portant mini-jupe ou robe panthère, elle se penchait à pleine main sur les corps qu'on lui amenait pour leur rendre justice, car la médecine légale est une enquête, une recherche de la vérité, un respect. Elle est fascinante, Karine Dabadi, qui a écrit un bouquin avec l'autrice Macha Seri, il s'appelle « Corps, corps, corps ». Fascinant aussi bien, c'est la journée, dans La Voix du Nord à nouveau, un quasi-confrère de Karine, Damien Charabidze, lui chercheur à l'Université de Lille en entomologie médicale, dont le livre se nomme « Le petit peuple des cadavres » et qui nous dit la vertu des insectes nécrophages qui, comment vous lirez, en médecine légale permettent de dater la mort. En Guadeloupe, Karine Dabadi, elle, des corps suppliciés de femmes, avait appris à voir les signes des violences conjugales. Ce n'était pas au hasard. Maltraitée dans un autre boulot, un jour de détresse, sur où lui revint d'un coup un souvenir refoulé, elle avait été petite fille violée à 12 ans. Elle porte des mondes en elle, elle est vivante parmi nous.
Vous nous parlez aussi d'un enterrement.
Et d'un corps qui se décompose dans une chambre froide en Dordogne, décidément, oui, pardon. Mais écoutez pourtant, s'il se décompose le corps de Johanna Christina, décédée il y a plus de 3 semaines à 78 ans, c'est, me dit le site Street Press, parce que la mairie de Boulaza, qui le manoir, refuse son enterrement, refuse de couvrir les frais d'incinération. C'est pourtant la règle quand les familles n'ont pas les moyens. Mais la mairie dit que si, elle a les sous. Willibette, petite fille de Juana Christina, réfugiée politique en France depuis 2020. 1921, qui avait accueilli sa grand-mère Alzheimer. Cette mairie est communiste, ce qui pourra étonner ceux qui savent que les gauches se veulent bienveillantes aux migrants et aux réfugiés. Oui, mais Willibert et sa grand-mère venaient du Venezuela, une dictature de gauche, vous entendez les guillemets, des idées me passent par la tête. Tant qu'à vous imposer des mesquineries, sachez que j'ai lu dans le Courrier de l'Ouest et dans le Maine Libre qu'un restaurateur de Saumur a été condamné la semaine dernière pour avoir, en août dernier, chassé en plein repas un couple de retraités venus, il le savait, pour un de leurs derniers déjeuners ensemble. Lui avait un cancer, visage défiguré, sa tumeur ne sentait pas bon, alors des clients se plaignaient, c'était midi, il avait la pression, le gargotier au tribunal, la dame lui a dit de ne plus s'inquiéter de son mari, il est mort. Dans le bien public, se désole Xavier, 61 ans, dont la maman Marie-Jo, 82 ans, était partie en Côte d'Ivoire, amoureuse de Christ. Quel nom ! Un brouteur arnaqueur internet de 28 ans. On vous a déjà raconté cette histoire, je crois. Eh bien, Marie-Jo est revenue en France, mais ça se passe mal. Elle en veut à ses enfants. Elle va repartir chez Christ cette semaine. Heureusement, sur le site de la Dépêche, je vois un fils et une mère chenus qui s'entendent bien pourtant. Pourtant, c'est une aventurière, Doris, 82 ans, comme Marie-Jo, ancienne danseuse étoile, ça se voit et quel regard pétillant. Elle se repose chez son fiston Laurent, dans le Tarn, après être partie en Afrique, décidément, mais elle, c'était à moto. Elle a passé plus de 7 mois autour du golfe de Guinée à former des soignants dans des zones reculées pour qu'ils sachent traiter les brûlures. Ça fait 20 ans qu'elle vadrouille ainsi. Je réalise qu'elle a commencé à mon âge. Est-ce qu'on pourrait me payer à moi aussi une Yamaha 125. La même dépêche me dit qu'un monsieur japonais de 92 ans vient de boucler un triathlon format Ironman. Il s'appelle Himoru Inada, cet homme que, hélas, je ne saurais jamais.
Et on parle enfin de copies.
Copies d'œuvres d'art superbes que nous raconte l'humanité et que l'on voit au centre Pompidou de Metz. Copies, recréations, réinventions par des artistes de maintenant, de chefs-d'œuvre du Louvre. Le détournement, c'est une fidélité. Le Figaro, lui, nous informe de la contrefaçon qui menace l'industrie du luxe. Oh, il y a des bandits là-dedans. Troublante enquête où je comprends que cette malhonnêteté se repose sur notre époque où l'apparence se prime. On nous la vend cette apparence sur Internet. Fichu influenceur, tiens, la croix me rappelle le mal que font les réseaux sociaux aux enfants. Quant au luxe, ou à son image, je lis ceci dans le Figaro. La consommation est pour les jeunes un moyen de se façonner à un statut social. Ils vont trouver dans la consommation des objets cultes qui vont les aider à se construire. Au collège, par exemple, il faut avoir le sac Longchamp pour les filles, Carhartt pour les garçons. Si les parents disent non, ils vont vers les copies. C'est brillant, mais ce « il faut » me laisse rêveur, comme me laisse rêveur, comme me laisse rêveur, ce personnage récurrent d'Internet que je lis aussi dans le Figaro. Inventé donc, on appelle cela un mème. Il incarnerait ce Nicolas, le refus des jeunes gens face à l'impôt abusif. On le voit sur les réseaux dans ses commentaires quand on cause des dépenses. C'est encore Nicolas qui paye. Pendant ce temps, Corse Matin me dit les finances exsangues de la collectivité de Corse et Le Monde me dit en Corse encore des plages un peu artificielles au sable noir né d'un passé douteux, des déchets d'extraction minière. Mais artificielles ou pas, on y est habitué, on les aime ces plages et elles sont menacées par la fièvre du nickel, ce métal de nos futurs promis.
Merci Claude pour cette revue de presse. 8h56, Mathilde Serrel, un monde nouveau ce matin, un monde avec moins de femmes d'eux.
Vous vous souvenez du débat sur le madame ou mademoiselle ? En 2012, 5 ans avant la vague MeToo, une circulaire préconisait de faire disparaître la case mademoiselle des formulaires administratifs au profit de madame, pour ne plus catégoriser les femmes en fonction de leur statut marital. Indice polémique, on peut encore lancer le débat en famille et provoquer une embrouille, ou tomber sur une spectatrice qui vous recadre, comme c'est arrivé à l'humoriste Kairon.
On dit plus mademoiselle, c'est fini ça ? Sur les actes officiels ? On dit quoi quand une fille est née, on met madame. Donc la petite, elle a 2 jours, faut dire madame, c'est ça? Un homme qui vient naître, on dit monsieur.
Ah oui.
D'accord. Mais toi, t'as kiffé quand je t'appelais mademoiselle?
Alors voici maintenant une autre évolution qui s'est faite longtemps, qui a pris son temps, mais qui s'est faite lentement, mais sûrement. Les femmes mariées prennent de moins en moins le nom de leur mari. Selon une étude de l'INSEE, en 1990, 16% des femmes françaises mariées gardaient leur nom de naissance. En 2020, c'est passé à 32%. En 30 ans, il y a donc 2 fois plus de femmes qui ont choisi de conserver ce qu'on appelle encore leur nom de jeune fille. Une expression qui, elle aussi, ne devrait pas tarder à changer. Garder ou non son premier nom de famille après le mariage, la question est réglée par l'actrice et chanteuse Selena Gomez, qui s'est prononcée, comme le rappelle le média Her Story.
Je ne changerai pas de nom, quoi qu'il
qu'il arrive, je suis Selena Gomez et c'est tout.
Ça marche peut-être aussi avec Léa Salamé, mais en même temps, c'est comme une marque, Selena Gomez. Changer de patronyme, ce serait casser des années de construction d'image. Mais même pour les simples mortels, les noms Selena Gomez, son avis compte puisqu'avec 420 millions d'abonnés sur Instagram, elle reste la personnalité féminine la plus suivie au monde. On peut imaginer qu'elle a une certaine influence. Elle reflète aussi les aspirations des nouvelles générations. Une autre étude du Pew Research Center, relayée par CNN, puis le média Slate, montre qu'aux États-Unis, 9% des femmes de 50 ans déclarent avoir conservé leur nom après le mariage. Chez les 18-49, elles sont 20% à avoir fait ce choix, du simple au double. Et plus les femmes sont diplômées, plus elles ont tendance à garder leur nom. Avec cette idée qui revient beaucoup dans les publications Girl Power sur les réseaux, ce n'est pas mon mari qui a eu son diplôme. Sachant, dernière statistique pour la route, que plus d'un homme sur 10 prend désormais le nom de sa femme lorsqu'il se marie. Selon une étude réalisée en Angleterre, cette fois, oui, pour le 10e anniversaire de mariage de la reine Elisabeth et du prince Philippe il y a 2 ans, un monde nouveau, ça se dessine donc aussi à l'état civil.
Merci Mathilde et à tout à l'heure dans Nouvelle Tête. David Castello-Lopez, bonjour.
Bonjour Nicolas.
L'habit fait-il le moine ?
Oui, j'avais déjà fact-checké pour
ça,
vous.
Vous l'aviez déjà fait, non ?
Non, j'ai fact-checké pour vous en début de saison l'expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse ».
C'est vrai, c'est vrai.
Et j'ai donc décidé aujourd'hui de poursuivre sur cette lancée de fact-checking. Alors, autant « pierre qui roule n'amasse pas mousse », ça demandait une explication en soi, parce que c'est un peu obscur comme expression. Autant « l'habit ne fait pas le moine », c'est très clair. L'habit ne fait pas le moine, ça veut dire que si jamais vous croisez un type qui a l'air d'un moine sur Paname, eh bien peut-être qu'en fait c'est un agent d'assurance ou un fan de Jul. Alors, dans le cas des moines, l'expression est assez vraie. L'habit de moine n'est pas réglementé par la loi. Donc, n'importe qui peut techniquement s'habiller en moine si ça lui chante, y compris les agents d'assurance. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes pour lesquelles l'habit fait 100% le moine. Je pense notamment aux forces de l'ordre. Je veux dire, si dans une manif, vous croisez un monsieur habillé en CRS, ne vous dites pas « peut-être que c'est pas un CRS, peut-être c'est un menuisier ». Non, considérez que c'est un CRS et agissez en conséquence. Mais bien sûr, l'idée un tout petit peu plus large qu'il y a derrière l'expression « l'habit ne fait pas le moine », c'est « il ne faut pas se fier aux apparences ». Et c'est vrai qu'il y a des fois dans ma vie où je me suis fait avoir. Par exemple, j'ai tendance à penser que les